Madeleine chaussa de fines lunettes de vue pour lire plus confortablement les résultats de la recherche qui s'affichait sur son écran. L'empereur abdique. L'empereur destitué. La chute de l'empereur. Les journaux français avaient rivalisé de jeux de mots pour annoncer la retraite de Jonathan. Elle cliqua sur le lien qui renvoyait à l'article du site internet de Libération. Culture, 30 décembre 2009. L'empereur déchu. Le prodige de la cuisine avant-gardiste a tenu une conférence de presse surprise hier soir à Manhattan pour annoncer la fermeture de son restaurant ainsi que la vente de toutes ses activités. La mine défaite et mangée par la barbe, les yeux cernés, la silhouette trop ronde, c'est en petite forme que le pape de la gastronomie new-yorkaise, le chef français Jonathan L'Empereur, a annoncé jeudi la fermeture immédiate de son restaurant, l'Impérator, 3 étoiles au Michelin, ainsi que la vente de toutes les activités du groupe qu'il avait fondé avec sa femme, Francesca Delillo. Une décision lourde de conséquences pour les 2000 salariés de l'entreprise. Un chef à part. Situé dans la mythique Rainbow Room, l'Impérator a été classé à plusieurs reprises meilleure table du monde par la revue britannique Restaurant Magazine. Visionnaire et inventif pour certains, imposteur et charlatan pour d'autres, l'empereur divise la planète gastronomique depuis près de 10 ans. Lassitude. Pour justifier sa décision subite, le chef s'est dit « fatigué, démotivé et usé », exprimant ainsi son épuisement d'être toujours sur la brèche et de devoir travailler 18 heures par jour, 360 jours par an. « J'arrête tout, définitivement », a précisé l'empereur, excluant catégoriquement de reprendre la tête d'un grand restaurant. « Je n'éprouve plus aucun plaisir à exercer mon art et je ne pense pas que ce plaisir puisse revenir un jour », a-t-il expliqué, se disant également lassé par les critiques qui ne comprennent plus son travail. Des problèmes de couple. Davantage que les critiques, il semble que ce soit ses problèmes conjugaux qui aient précipité son choix de se retirer du monde de la gastronomie. J'étais très lié à ma femme Francesca et il ne fait aucun doute que notre récente séparation a joué sur ma décision, a reconnu l'empereur, éludant néanmoins toutes les questions sur sa vie privée. Des problèmes financiers. Mais des paramètres financiers sont aussi en cause, qui rendaient sans doute à terme mon retrait inéluctable, a-t-il précisé. Depuis plusieurs années, le groupe Impérator était en effet lourdement endetté, englué dans un modèle économique peu performant et des investissements hasardeux. C'est donc le couteau sous la gorge que l'empereur s'est vu contraint de céder la licence d'exploitation de son nom au complexe hôtelier de luxe Wynn Entertainment, qui devait reprendre la totalité des activités du groupe. Un avenir incertain. À même pas 40 ans, que va faire l'empereur à présent? Se reposer? Se ressourcer? Se lancer dans un autre pari? Le chef est resté flou sur son avenir. Pressé de mettre un terme à son intervention, c'est un homme seul, le regard perdu, qui a quitté sa conférence de presse. Un homme fatigué, mais peut-être aussi secrètement soulagé de ne plus avoir à jouer à l'empereur. Madeleine cliqua sur un autre lien. Un article du site du New York Times donnait un nouvel éclairage sur l'épisode. Le syndrome de Vatel, par Ted Booker, publié le 30 décembre 2009. Leader emblématique de la cuisine d'avant-garde, Jonathan L'Empereur a-t-il succombé au syndrome de Vatel? Le chef new-yorkais est en effet loin d'être le premier virtuose des fourneaux à se retirer subitement de la scène après une déconvenue. De Bernard Loiseau à Jacques Laroux, de nombreux grands chefs ont éprouvé avant lui l'angoisse permanente du déclin. Jonathan L'Empereur a réussi miraculeusement à conjuguer création, reconnaissance critique et rentabilité pendant une dizaine d'années. C'est cet équilibre précaire qui vient de se rompre ce soir. Suivait une compilation de témoignages qui donnait à l'article des airs de nécrologie. Tous les intervenants parlant de l'empereur comme s'il était mort. Michael Bloomberg, le maire de New York, louait le formidable talent d'un grand chef qui était devenu, au fil des années, New-Yorkais d'adoption. Hillary Clinton rappelait le « soutien actif de Jonathan L'Empereur aux actions menées au sein des écoles pour favoriser l'éducation au goût des enfants ». Frédéric Mitterrand, le ministre français de la Culture, saluait en lui un génie de la création culinaire qui a su contribuer au rayonnement international de la gastronomie française. À côté de ces réactions consensuelles, une intervention détonnait clairement. Celle du chef écossais Alec Baxter, que Jonathan avait détrôné du titre de meilleur cuisinier de la planète. Baxter tenait sa vengeance et ne cachait pas sa satisfaction. L'empereur n'aurait été qu'une étoile filante dans le monde de la cuisine. Un météore créé par les médias et qui s'est finalement laissé dévorer par le système qu'il avait propulsé en haut de l'affiche. Qui se souviendra de son nom dans 10 ans? Mais le témoignage le plus fort, le plus personnel et le plus poignant revenait à Claire Lisieux, l'un des deux sous-chefs de l'Impérator. « Je travaille avec Jonathan l'Empereur depuis 10 ans, » expliquait la jeune femme. « C'est lui qui m'a tout appris. Il m'a repéré alors que j'étais serveuse dans un café de Madison, où il venait chaque matin prendre son petit déjeuner. Je n'avais pas de permis de travail valide et il m'a aidé à régulariser ma situation tout en m'embauchant dans son restaurant. C'était un homme d'une grande volonté, exigeant mais généreux avec son personnel. »
« Toi, ma vieille, tu devais être secrètement amoureuse de lui, »
marmonna Madeleine avant de reprendre la lecture de son article.
« Jonathan est un mélange de force et de fragilité, » continuait Claire. « Un être au caractère excessif, traversé de contradictions, adorant et abhorrant les médias et la notoriété. Ces derniers temps, je l'ai senti très déprimé. Hyperactif, sous tension permanente, il poursuivait une quête inlassable de la perfection qui était devenue une sorte d'esclavage. Il était exténué, travaillant sans relâche du matin au soir. Il ne prenait quasiment jamais de vacances. Tant que sa femme le soutenait, il était à l'abri d'un coup de folie. Mais lorsqu'elle l'a quitté, tout ça est devenu trop lourd à porter. Car tout le monde se trompe sur Jonathan l'Empereur. Sa soif de reconnaissance, son ambition, ses concessions au Star System ne sont pas les signes d'une mégalomanie excessive. Je crois seulement qu'il faisait ça pour Francesca, pour lui plaire, pour qu'elle l'aime. À partir du moment où ils se sont séparés, je pense tout simplement que plus rien ne l'intéressait, que plus rien n'avait de sens.
« Qu'est-ce que tu fais debout ?»
Madeleine sursauta et se retourna comme prise en faute. En robe de chambre, tout ensommeillée, Raphaël la regardait d'un drôle d'air.
« Rien, rien. » assura-t-elle en refermant précipitamment l'écran de son ordinateur. « Je faisais mes comptes. Les cotisations, l'URSSAF, les charges, enfin, tu sais ce que c'est.
Mais il est 2 heures du matin. »
« Je n'arrivais pas à dormir, chérie, »
expliqua-t-elle en enlevant ses lunettes. Elle but une gorgée de thé devenu froid, mit son nez dans la boîte de biscuits, mais constata qu'elle était vide. Raphaël se pencha vers elle pour lui déposer un baiser sur les lèvres. Il passa une main sous sa nuisette et caressa son ventre. Puis, sa bouche abandonna celle de Madeleine pour glisser dans son cou. Lentement, il fit tomber une bretelle du déshabillé de soie, puis la deux... Son élan amoureux fut brusquement interrompu par le riff de Jumping Jack Flash. Raphaël tressaillit sous l'effet de la surprise et marqua un mouvement de recul. Madeleine regarda le téléphone de Jonathan qui vibrait à côté de son ordinateur. La photo d'une femme brune, à l'allure grave, aux yeux sombres et profonds, s'était affichée sur l'écran. Elle était surmontée d'un prénom, Francesca. Sans prendre le temps de réfléchir, Madeleine décrocha.
Pas, j'ai un peu froid.
Jonathan leva la tête de son écran. Depuis une heure, il était plongé dans les méandres tortueux de sa réflexion, essayant, sans succès, de pirater le code de Madeleine. Il avait parcouru une bonne partie des mails de la jeune femme, collectant patiemment des bribes d'informations et tentant, à chaque nouvel indice, de trouver un mot de passe correspondant.
« Va chercher un pull, chérie, » dit-il en lui tendant une serviette en papier pour essuyer son nez qui coulait comme une fontaine.
Le soleil avait disparu pour laisser la place à un brouillard blanc et dense qui recouvrait les rues et le parc sur lequel donnait la terrasse.
Ce n'était pas pour rien que San Francisco était surnommé « Fog City ».
C'était même l'un des aspects un peu mystérieux et déconcertants de la cité. La vitesse avec laquelle une brume épaisse pouvait en quelques minutes envelopper la ville et son célèbre Golden Gate. Quand Charlie revint, enfoui dans un épais col roulé, Jonathan regarda sa montre.
« Alexandra ne va plus tarder. Ça te fait plaisir d'aller voir Wicked avec elle ?»
Le gamin fit oui de la tête avant de s'écrier
« La voilà !»
et de sauter de joie en apercevant sa nounou.
L'étudiante était la fille de Sandro Sandrini, le patron de l'un des restaurants italiens les plus anciens du quartier. Elle suivait un cursus à Berkeley. Et à chaque séjour de Charlie en Californie, Jonathan faisait appel à ses services. Il saluait la jeune fille lorsque le portable vibra dans sa main. Il regarda ce qu'affichait l'écran et reconnut les chiffres familiers du numéro de son ex-femme. « Allô ?» D'une voix neutre, Francesca lui expliqua qu'en cherchant à le joindre, elle était tombée sur une Parisienne qui lui avait expliqué l'échange des appareils. Elle voulait juste s'assurer que tout allait bien et parler à Charlie. « C'est ta mère, » dit Jonathan en tendant le combiné à son fils.